Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Que connaissons-nous à l'amour ? Voici la question à laquelle je vous invite à consacrer cette émission, à y réfléchir et surtout à explorer de différentes façons des éléments qui vont peut-être nous permettre de répondre un peu à cette question. Que connaissons-nous à l'amour ? Plus que jamais, je me pose cette question. Plus que jamais, j'explore pour enfin trouver peut-être une réponse fondée qui m'éclaire. Il s'agit bien sûr d'abord de l'amour au sens large. Comme beaucoup, élevé, éduqué, seul un enfant m'apprend beaucoup. Et comment éduquer un enfant sans l'aimer ? Là est sans doute le parcours de la vie où je me suis le plus éveillé à la connaissance de l'amour, grâce à un enfant. Puis, bien sûr, cette question s'adresse à l'amour entre deux êtres. En 2012, Fabrice Midal publiait un livre fort intéressant. Et si de l'amour on ne savait rien ? Nous l'avions reçu dans notre émission, et l'un de ses messages était « Une vie sans amour n'est pas une vie ». Mais l'amour, de quoi s'agit-il ? Avant tout, d'où vient le mot « amour » ? Du latin « amor ». En ancien français, le mot est en concurrence avec « amitié » et exprime toutes les nuances fortes de l'affection. L'amour médiéval entre un homme et une femme est à la fois sexualisé et idéalisé en tant que sentiment central de l'univers courtois. Mais si cette question « que connaissons-nous de l'amour » est fondamentale, combien semble avoir renoncé à se la poser ? Il semble que beaucoup ont renoncé parce qu'ils sont déçus, blessés et qu'ils n'y croient plus. Trop dur, trop rare, trop exigeant, alors l'amour vrai devient un mythe, un rêve impossible. Et dans cette perspective, on se contente de moins. N'ayant pas compris peut-être que l'amour était la plus belle aventure humaine, qu'elle exige préparation, effort, ténacité, courage. L'amour est à construire, à entretenir, à vivifier en permanence. Il y a un amour de paille, mais il y a aussi un amour de braise. Le plaisir de la sexualité, l'approche en contrat à durée déterminée, semble suffire pour certains. Et on note que plus il y a de liberté sexuelle, moins semble-t-il il y a amour. Alors l'amour, est-ce un mythe ? Est-ce un idéal inaccessible ? Renonçant à réduire la connaissance à quelques savoirs et à quelques vécus, y compris dans la trahison, je suis parti en exploration avec pour bagage 9 repères. Pour essayer de localiser un peu plus précisément de quoi nous parlions. Le premier, un être est un corps, un cœur, un esprit, des intelligences. On reconnaît maintenant officiellement et scientifiquement 8 intelligences, et il y en a sans doute d'autres, et une âme au sens du sens qui oriente notre vie. Deuxième repère, c'est que raison et émotion sont en dialogue. Le troisième est que l'amour est rencontre, relation de deux êtres, et que le chemin où se construit l'amour est un chemin difficile et long. Un autre est que l'amour est convergence de deux désirs, de deux volontés et de deux engagements. Un autre est que le mariage ne produit pas l'amour. Un autre est que l'amour est co-création et pas seulement pro-création. Alors, le dernier repère est le suivant, mais l'amour qui dure existe-t-il et quel en est le secret ? Pour cela, j'ai d'abord exploré les citations, les aphorismes, les proverbes. En voici quelques-uns.
Quand on est jeune, on aime en fou. Quand on est vieux, qui aime est fou. Proverbe du XVIIe siècle. Qui jamais ne connut ce que c'est que l'amour, n'a jamais pu savoir ce que c'est que la peine. Thomas, Tristan et Iseult. L'amour est un sacrement qui doit être pris à genoux. Oscar Wilde, De Profundis. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Saint Augustin. L'amour est le drame de l'accomplissement. de l'unification. Miller, le monde du sexe. L'amour, tel qu'il existe dans la société, n'est que l'échange de deux fantaisies et le contact de deux épidermes. Champfort, Maxime et Pensée. L'amour est l'ultime signification de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est la vérité. C'est la joie qui est à l'origine de toute création. Tagore. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de devenir soi-même un monde, pour l'amour d'être aimé. C'est une autre exigence. C'est une haute exigence. Une ambition sans limite, qui fait de celui qui aime un élu, qu'appelle le large. Rilke, lettre à un jeune poète. L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. Shakespeare, Roméo et Juliette. On ne badine pas avec l'amour. Alfred de Musset, titre de la comédie. L'amour d'un homme n'occupe qu'une partie de sa vie d'homme. L'amour d'une femme occupe toute son existence. Lord Byron, Don Juan. L'amitié, c'est gérer les difficultés. L'amour, c'est concilier les différences. Ami, lorsque tu te sens prêtre et non lorsque tu te sens seul. Refuser d'aimer par peur de souffrir, c'est comme refuser de vivre par peur de la mort. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Victor Hugo. Le mot je t'aime prend 3 secondes pour le dire, 3 heures pour l'expliquer et toute la vie pour le prouver. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te complète. Tu as seulement besoin que tu acceptes que quelqu'un t'accepte complément. L'amour est un autre. Honoré de Balzac.
À ces citations, j'en rajouterai volontiers 7. Le verbe aimer est le plus compliqué de la langue française. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur est toujours conditionnel. Jean Cocteau. Aimer, c'est trouver sa richesse hors de soi. Alain. L'amour est preuve permanente, y compris dans l'épreuve. Anonyme. L'amour est cette merveilleuse chance qu'un autre vous aime encore quand vous ne pouvez plus vous aimer vous-même. Jean Guéhenno. Nous vivons si nous aimons. L'amour signifie la non-suffisance à soi-même. Marcel Conche. Qu'est-ce qu'une vie en cette vie? L'échange où l'on est de tout cœur dans l'échange. Marcel Conche. Et enfin de Spinoza. On ne désire pas les choses parce qu'elles sont belles, mais c'est parce qu'on les désire qu'elles sont belles. À vous de continuer cette exploration sur les citations, les proverbes, les aphorismes. Vous allez sans doute en trouver de très très belles, de très belles pépites. Pourquoi pas alors prendre un petit carnet pour recueillir les notes de votre exploration, sans oublier vos propres citations. Ensuite, je suis allé vers la poésie. Je l'ai trouvée intéressante, elle m'a aidé à penser par moi-même, mais je l'ai trouvée insuffisante. Chaque philosophe, en référence à sa vie, apporte des contributions certes intéressantes. Il faut surtout les contextualiser. Je retiens 11 philosophes. Vous allez me dire, c'est énorme pour votre émission. Non, pas du tout. Et je vous donnerai, dans un instant, la référence d'un livre qui présente fort bien, d'une façon remarquable, la position de ces philosophes que je vais vous citer à propos de l'amour. Il y a Platon, il y a Aristote, il y a Lucrèce, qu'il ne faut pas oublier. Montaigne, bien sûr. Descartes a aussi parlé de l'amour. Spinoza, ne jamais l'oublier. Rousseau, Kant. Schopenhauer, Bergson et Nietzsche, qui parlent de l'amour avec la propre souffrance de sa vie. Soyez rassurés, vous n'avez pas besoin de lire des livres exagérés, compliqués, non, tout simplement. Je vous recommande un petit ouvrage, « L'amour, tout simplement », de Catherine Mérien, aux éditions Erol. C'est un petit livre qui présente ces philosophes et d'autres. Elle le présente d'une façon très claire et chacun, vous m'entendez bien, chacun peut découvrir à ce niveau Platon et les autres. Alors, en plus de ces philosophes, j'en retiens cinq qui sont encore vivants et qui, sans doute, pour certains, vous disent quelque chose. Marcel Conche, qui a été, rappelons-le, le maître, le professeur d'André de Comte de Sponsville à la Sorbonne, et qui vit toujours en Corrèze, et que nous avions reçu dans cette émission. Il nous avait parlé longuement et merveilleusement d'Épicure en Corrèze, qui est son dernier livre. Il a écrit aussi un tout petit ouvrage de l'amour, dont on a extrait tout à l'heure des citations. Marcel Conche, ne l'oubliez pas, allez voir sur Internet. André Comte de Sponsville, qui bien entendu est un philosophe contemporain connu, et si vous ne voulez pas vous attaquer à l'un de ses gros livres, comme le Traité des Vertus, etc., il y a un tas de ses ouvrages qui existent maintenant en livre de poche. Luc Ferry, parce que Luc a fait un remarquable travail sur l'amour et la mythologie. Alors vous allez retrouver cet ouvrage qui est vraiment très très intéressant et qui nous permet de comprendre à travers toutes les cultures comment la mythologie a abordé la question de l'amour. Alain Badiou et Alexandre Jolien, dont nous avons parlé dans la dernière émission. De ces philosophes aux contributions si variées, je retiens en particulier, bien sûr, la distinction entre Eros, Philia et Agapé, constamment retenue par les philosophes. Cela nous permet de mieux comprendre la complexité de l'amour et de savoir si nous parlons que d'Eros, que de Philia ou d'Agapé, ou des trois à la fois. Je retiendrai aussi l'apport singulier de chacun en référence à son parcours de vie. Chacun parle de l'amour et on voit transparaître la vie du philosophe. Je retiendrai de Spinoza ce commentaire fort intéressant. Le désir est comme puissance et l'amour comme joie. Et il insiste sur le fait que l'âme et le corps sont une même chose, ce qui de plus en plus par les neurosciences est maintenant reconnu et pris en considération. Spinoza nous redit à sa manière l'émerveillement de l'amour et nous redit quelque chose de très très actuel. Apprendre à aimer, c'est un apprentissage tout au long de la vie. Alors ce soir, je retiens surtout Alain Badiou et son livre « Éloge de l'amour ». Pourquoi ? Parce que ce livre, paru il y a quelques années, je le trouve tout à fait remarquable. Dans « Éloge de l'amour », c'est le livre dont je parle, Alain Badiou réfléchit à la dimension politique de l'amour, particulièrement dans les sociétés contemporaines. La conviction de Badiou est en effet que l'amour est aujourd'hui menacé par l'esprit de l'individualisme, du calcul marchand, qui évalue risques et intérêts. L'amour, au contraire, pour Badiou, est hasard, risque sans mesure, perte de soi, résistance d'autrui à la possession. Ainsi, pour lui, être amoureux, c'est toujours au sens propre une aventure, c'est toujours sans le vouloir dessiner une sphère de résistance à la rationalité économico-politique, à l'individualisme. L'amour, dit-il, est une force agissante. Mais par-delà la dimension politique, il faut dire son importance sur le plan éthique et esthétique. Car pour Badiou, l'amour, comme rencontre avec un autre, avec lequel la fusion, la communication est possible, est affirmation de la différence, et par là, il est à l'origine d'une recréation du monde par les regards croisés des amoureux. Écoutons quelques passages de Badiou.
Dans l'amour, il y a l'expérience du passage possible de la pure singularité du hasard à un élément qui a une valeur universelle. La conviction est aujourd'hui largement répandue que chacun ne suit que son intérêt. Alors l'amour est une contre-épreuve. L'amour est cette confiance faite au hasard. Nous avons là deux ennemis de l'amour, au fond. La sécurité du contrat d'assurance et le confort des jouissances limitées. Le bonheur amoureux est la preuve que le temps peut accueillir l'éternité. Au fond, c'est ça l'amour. Une déclaration d'éternité qui doit se réaliser ou se déployer comme elle peut dans le temps. L'idée que l'amour s'achève ou se réalise uniquement dans la création d'un univers familial n'est pas satisfaisante. L'amour s'adresse à l'être même de l'autre, à l'autre tel qu'il a surgi, tout armé de son être, dans ma vie ainsi rompue et recomposée. Un amour véritable est celui qui triomphe durablement, parfois durement, des obstacles que l'espace, le monde et le temps lui proposent.
Voilà, Badiou et sa pensée tout à fait contemporaine et tout à fait passionnante. J'ai alors quitté les philosophes et je me suis orienté sur tout ce qui était écrit, essais, romans, poésie, écritures diverses. Et là, bien entendu, c'est une exploration sans fin qui exigerait des jours et des jours. Mais je retiendrai quand même le fameux classique de Stendhal, de l'amour, dont vous avez sans doute entendu parler, les passages extraordinaires de Victor Hugo sur l'amour, et puis un livre que vous connaissez peut-être pas, d'Alain Blum, son très très beau livre en livre de poche sur l'amour et l'amitié. C'est le grand livre posthume d'Alain Blum, qui part d'un constat anxieux, le lien humain se défait. Non pas par l'effet de quelques fatalités extérieures, mais simplement parce que nous le voulons ainsi. Mais nous voulons de plus en plus des individus libres et authentiques, et pourtant, nous avons ce que nous voulons. Nous avons, au lieu de l'amour et de l'amitié, des relations sexuelles, des relations amicales. Ainsi, le projet d'Alain Blum est de retrouver la complexité, les triomphes et les échecs, bref, la vérité du lien humain, amoureux et amical. Comment ? Eh bien, tout simplement, il donne la parole, il explore des auteurs, des chercheurs. Je vous invite à lire ce livre tout à fait extraordinaire. Avant de passer aux revues, dans un instant, pour essayer de voir ce que nous disent les principales revues dans ce domaine, et surtout les neurosciences, puis d'aller plus loin dans notre recherche, eh bien, je vous invite à faire une petite pause. Nous allons nous retrouver dans un instant. Et là, nous allons écouter cette musique très belle, cette chanson extraordinaire, La Tendresse. Et nous allons passer après.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien. Être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question. Quelle douce faiblesse, quel joli sentiment, ce besoin de tendresse qui nous vient en naissant. Vraiment, 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 le travail est nécessaire. Mais s'il faut rester des semaines sans rien faire, eh bien, on s'y fait. Mais vivre sans tendresse, le temps vous paraît long.
Suivons notre exploration sur ce thème, que connaissons-nous à l'amour ? Après avoir essayé de rappeler ce dont nous parlions, nous avons exploré des citations, des aphorismes, des proverbes, très intéressants, chacun mériterait une longue réflexion, puis le monde de la philosophie, et on a retenu plus précisément Alain Badiou parmi tant d'autres, Puis au niveau de la littérature, là il faudrait des journées pour en parler. Rementionner Stendhal, Victor Hugo et Alain Blum est vraiment le minimum. J'ajouterais quand même un livre récent qui vient de paraître et qui est vraiment très beau. L'auteur, Joseph Skovanek. Son titre, De l'amour en autistan. Joseph est autisme et la même année, en 2015, il a publié un livre remarquable, Comprendre l'autisme pour les nuls, et d'autre part, ce livre, De l'amour en autistan. Avec poésie, humour et pudeur, Joseph Skovanek nous parle d'amour comme cet aveugle de naissance qui, mieux que nul autre, lui décrit un soir d'hiver la couleur rouge. Allez voir ce livre, lisez et relisez, c'est merveilleux. Mais nous devons abandonner les rives de la littérature pour entrer dans celui des revues. Régulièrement, un certain nombre de revues mentionnent des numéros sur l'amour. Je parlerai plus précisément de sciences humaines, je parlerai de la revue Clé, moins connue mais que l'on trouve dans les kiosques à journaux, je parlerai de Sciences Psy, dont le rédacteur en chef est Boris Cyrulnik, que nous avons eu il y a peu de temps ici à l'antenne. Et puis, je parlerai d'une revue qui, pour moi, est de plus en plus intéressante, de plus en plus passionnante, c'est la revue Cerveau et Psycho. Cerveau et Psycho. Cette revue, il y a quelques années, a publié un article qui a fait beaucoup de bruit. L'amour dure 3 ans, 4 ans. Un article qui a été très mal compris et qui a fait l'objet après d'un roman, L'amour dure 3 ans, d'un film, etc. Comme si les neurosciences nous avaient dit un jour que l'amour durait 3 ans. C'est une très mauvaise interprétation. C'est seulement dans l'état naissant de l'amour que les neurosciences, alors, exploraient certaines dimensions et disaient que cette séquence première, j'allais dire, ne durait que 3 ans ou 4 ans. Très récemment, cette revue, en juin 2005, a sorti un numéro spécial, S'aimer pour la vie, et alors elle pose la question, comment faire durer l'amour? Revue passionnante, c'est le numéro 69 de cette revue Cerveau et Psy, qui existe aussi dans tous les kiosques à journaux. C'est une revue très claire, qui fait beaucoup, beaucoup améliorer avec le temps, et qui nous montre que, eh bien oui, on peut s'aimer pour la vie, ça existe, et les neurosciences nous disent pourquoi certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Alors, lisez cette revue, car les neurosciences nous disent bien que l'amour peut durer, et c'est une approche fort intéressante, car on ne peut plus faire l'économie des neurosciences pour essayer de parler de l'amour. Toutefois, il faut être prudent, car les neurosciences sortent parfois des articles très positivistes et ont des conclusions un peu rapides, et il faut, je pense, beaucoup de recul. C'est pourquoi, dans ces cas-là, je vous propose de prendre 2 types de recul. D'abord, le recul de thérapeutes, de psychologues qui ont un apport aussi tout à fait passionnant. Et là, permettez-moi de vous parler d'un livre qui paraît maintenant en livre de poche, qui est de 2 Américains, Gottman et Silver. Le titre du livre, c'est « Les couples heureux ont leurs secrets » et ils retiennent 7 principes de vie pour un couple durable. Alors, je ne peux pas m'empêcher, ne serait-ce que pour vous donner envie de découvrir ce livre, de vous mentionner très très vite ces 7 repères qui sont largement développés. Encore une fois, le livre existe en livre de poche. Le premier, c'est d'enrichir continuellement sa connaissance de la vie de l'autre et de ses états d'âme. Le deuxième, c'est cultiver la tendresse et l'estime réciproque. Le troisième, c'est de manifester des gestes quotidiens d'attention, de compréhension, de soutien, d'affection. Le quatrième, c'est se laisser influencer par l'autre tout en tenant compte de son propre avis et de ses propres sentiments. Le cinquième, c'est ne pas craindre les disputes. Le sixième, c'est surmonter les problèmes insurmontables en identifiant pour chacun le rêve, le besoin ou le désir. Le septième, c'est prendre conscience de la culture du couple au cours des années qui se construit et qui se développe. Mais pour en savoir plus, allez voir ce livre. Et puis, je pense qu'à côté des psychologues, comme ce couple américain qui en parle fort bien, essayons de voir ce que les thérapeutes souvent en pensent. Et là, je reviens, nous sommes revenus plusieurs fois depuis 3-4 ans sur Thierry Tournebis, qui incontestablement est un psychothérapeute les plus reconnus, les plus appréciés actuellement en France. Voyez son site absolument extraordinaire, Tournebis, T-O-U-R-N-E-B-I-S-E. Et dans un livre, De l'attirance à l'amour, dont vous verrez les références dans la note de synthèse qui accompagnera l'émission sur le site, il dit ceci, écoutez bien, « L'amour n'est pas l'état amoureux. Nous avons d'abord la rencontre, suivie de la relation amoureuse, et suivie ensuite de l'amour. La confusion est telle qu'on ne comprend pas généralement que quand la passion s'arrête, c'est justement là que l'amour commence. » Alors, je vous laisse découvrir sa pensée. Ses apports sont tout à fait passionnants et complètent, comme le livre antérieur, ce que les neurosciences nous disent. Alors, explorez les neurosciences, explorez les thérapeutes, explorez les psychologues, vous allez découvrir plein de choses. Bien sûr, encore une fois, à travers les chansons, à travers les poésies, vous allez découvrir un monde merveilleux, mais l'essentiel, encore une fois, pour ce soir, y a-t-il un secret qui nous permettrait de mieux connaître l'amour? Et pour avancer, eh bien, je suis allé voir Grand Corps Malade. Et nous allons écouter de lui deux slams absolument très beaux. Et je crois que ce que nous dit Grand Corps Malade est aussi à prendre en considération. Alors, écoutons le premier, je ferai un bref commentaire et nous écouterons le second.
Le corps humain est un royaume où chaque organe veut être le roi. Il y a chez l'homme trois leaders qui essaient d'imposer leur loi. Cette lutte interne permanente est la plus grosse source d'embrouille. Elle oppose depuis toujours la tête, le cœur et les couilles. Que les demoiselles nous excusent si on fait des trucs chelous. Si un jour on est des agneaux et que le lendemain on est des loups. C'est à cause de ce combat qui s'agite dans notre corps. La tête, le cœur, les couilles discutent, mais ils sont jamais d'accord. Mon cœur est une vraie éponge, toujours prêt à s'ouvrir. Mais ma tête est un soldat qui se laisse rarement attendrir. Mes couilles sont motivées, elles aimeraient bien pécho cette brune. Mais il y en a une qui veut pas, putain, ma tête me les burnes. Ma tête a dit à mon cœur qu'elle s'en battait les couilles, si mes couilles avaient mal au cœur et que ça créait des embrouilles. Mais mes couilles ont entendu et disaient à ma tête qu'elle a pas de cœur et que mon cœur n'a pas de couilles, ma tête n'est pas prête d'avoir peur. Moi, mes couilles sont tête en l'air et ont un cœur d'artichaut. Et quand mon cœur perd la tête, mes couilles restent bien au chaud. Et si ma tête part en couilles, pour mon cœur, c'est la défaite. Je connais cette histoire par cœur, elle n'a ni queue ni tête. Moi, les femmes, je les crains, autant que je suis fou d'elles. Vous comprenez maintenant pourquoi chez moi c'est un sacré bordel, j'ai pas trouvé la solution. Ça fait un moment que je fouille. Je resterai sous le contrôle de ma tête, mon cœur et mes couilles.
Voilà ce premier texte. Qu'y a-t-il à rajouter? Rien, selon moi. Il faudrait pouvoir relire le texte écrit et réécouter Le Grand Corps Malade. Mais écoutez ce second sur l'amitié et l'amour.
Elle m'a dit, t'inquiète, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Puis j'ai rencontré la détresse et franchement, elle m'a saoulé. On a discuté vite fait, mais rapidement, je l'ai refoulé. Elle a plein de certitudes sous ses grands airs pleins de tensions. Mais vous savez quoi, la détresse, elle a pas de conversation. À un moment, sur ma route, j'ai rencontré l'amour. Je lui dis, tiens, tu tombes bien, je veux te parler depuis toujours. Dans l'absolu, t'es une bonne idée, mais dans les faits, c'est un peu nul. Tu pars en couille une fois sur deux, faudrait que tu retravailles ta formule. Amour m'a dit, écoute petit, ça fait des siècles que je fais mon taf. Alors tu me parles sur un autre ton, si tu veux pas te manger des baffes. Moi, je veux bien être gentil, mais faut que chacun y mette du sien. Les humains ne font aucun effort, et moi, je suis pas un magicien. On s'est embrouillé un petit moment, et c'est là que je me suis rendu compte que l'amour était sympa, mais que quand même, il se la raconte. Il m'a dit qu'il devait partir, il avait des rendez-vous par centaines. Et ce soir, il devait dîner chez sa demi-sœur, la haine. Avant de partir, j'ai pas bien compris, il m'a conseillé d'y croire toujours. Puis s'est éloigné sans se retourner, c'était les derniers mots d'amour. Je suis content de l'avoir connu, ça, je l'ai bien réalisé. Et je sais qu'un de ces quatre, on sera amené à se recroiser. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la tendresse. Ce qui reste de l'amour derrière les barrières que le temps dresse. Un peu plus tard, sur mon chemin, j'ai rencontré la nostalgie. La fiancée des bons souvenirs qu'on éclaire à la bougie. Assez tôt sur mon parcours, j'avais rencontré l'amitié. Et jusqu'à ce jour, elle marche toujours à mes côtés. Avec elle, je me tape des barres et on connaît pas la routine. Maintenant, c'est sûr, l'amitié, c'est vraiment ma meilleure copine. J'ai rencontré l'avenir, mais il est resté très mystérieux. Il avait la voix déformée et un masque sur les yeux. Pas moyen de mieux le connaître, il m'a laissé aucune piste. Je sais pas à quoi il ressemble, mais au moins, je sais qu'il existe. J'ai rencontré quelques peines, j'ai rencontré beaucoup de joie. C'est parfois une question de chance, souvent une histoire de choix. Je suis pas au bout de mes surprises, là-dessus, y a aucun doute. Et tous les jours, je continue d'apprendre les codes de ma route. C'était sur une grande route, je marchais là depuis des jours. Voire des semaines ou des mois, je marchais là depuis toujours. Une route pleine de virages, des trajectoires qui dévient. Un chemin un peu bizarre, un peu tordu, un peu comme la vie.
tigre encore malade de ces deux textes tout à fait exceptionnels. Quand encore malade, vous nous donnez envie d'aller plus loin, peut-être dans les chansons. Malheureusement, on ne peut pas en passer plusieurs, mais on va quand même écouter celle-ci, quand on n'a que l'amour.
Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour le mot de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller matin, pour et malandrin de manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les mots de la terre en simple troubadour. Quand on n'a cela dont unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson.
Doucement, au terme de notre exploration, et cette chanson nous rappelle que quand on a l'amour, on a l'essentiel, qu'une vie sans amour n'est pas une vie. Mais quel est donc le secret de l'amour? Nous avons vu que des romanciers, des auteurs divers en parlaient avec beaucoup de beauté. On sentait qu'ils avaient touché, rencontré l'amour. Nous avons vu que les neurosciences actuelles, la psychologie, la thérapie nous montrent que l'amour est concevable, est possible et peut durer. Mais encore, il nous reste à découvrir où est donc ce secret de l'amour. Pour cela, je me suis rendu auprès d'un ami qui m'a dit, à partir de son vécu, l'amour, c'est être sur la même longueur d'onde, c'est se reconnaître. C'est aussi dans la beauté raisonner mutuellement. Ça et là, j'ai découvert quelques petites pépites venues d'échanges et de réflexions, et puis je dois le dire, j'ai été très touché par ce commentaire d'Umberto Galimberti, qui a écrit un très beau livre, « Qu'est-ce que l'amour ?». Il essaie de nous montrer dans son livre que l'amour est ce qui fait toucher du doigt les limites de l'être humain. Quelque chose d'impressionnant. Et il nous rappelle, en conclusion, qu'un jour, Zeus, voulant punir l'homme pour son orgueil, sans toutefois le détruire, le sectionna en deux. Depuis ce jour, chacun de nous est donc la moitié complémentaire d'un homme, la moitié qui cherche notre moitié, le symbole qui lui corresponde. Après avoir infligé à l'homme cette blessure, Zeus envoya l'amour pour la soigner. C'est que parmi les dieux, il n'y en a pas qui aime davantage les hommes qu'amour. Elle secourt, elle guérit, et sans doute elle permet d'avancer dans l'appréhension du mot amour. Depuis que les hommes s'unissent entre eux, et ainsi se reproduisent-ils, concluent-ils, non plus en s'unissant à la terre, mais par une union réciproque, alors l'amour médiateur entre les hommes et les dieux, l'amour intervient à la limite de l'humain, là où le fond non historique depuis lequel notre histoire a pris son départ nous possède encore sous forme d'une folie refoulée. Et il conclut, ainsi Platon, et nous revenons au philosophe, érige-t-il l'amour comme symbole de la condition humaine ? À qui n'est pas accordé de détourner le regard du sectionnement subi par lui ? Telle est donc la raison pour laquelle l'amour n'est pas seulement une affaire de corps, mais la trace d'un déchirement et la recherche incessante d'une plénitude perdue dans chaque étreinte est à la fois mémoire, tentative et échec. Arrivé à ce terme, ayant rencontré cet ami qui m'avait parlé de reconnaissance, de résonance, de longueur d'onde, j'ai voulu aller plus loin. Alors, outre les 12 livres que je mentionnerai dans la note de synthèse, sur le site que je vous rappelle, http://www.culture-éducation-singulier.com/, outre ces 12 livres, j'ai voulu essayer de revoir mes repères de départ. Mais j'ai trouvé que finalement, il n'en manquait qu'un. C'est que l'amour était un long chemin et que lorsqu'on l'avait rencontré, il fallait l'entretenir. De ce voyage, en fait, et je termine par là, je retiens surtout cet échange avec ce couple tout proche de ce studio qui vit l'amour depuis plus de 35 ans. Un couple qui allie Eros, Philia et Agapé. Chaque jour, ils créent l'amour avec générosité, avec tendresse, beauté et sans contrainte et sans calcul. Elle et lui connaissent dans l'ordinaire l'extraordinaire de l'amour qui est alors sagesse colorée de folie. Leur secret ? Eh bien, un soir, c'est elle qui me l'a dit par SMS, car elle avait refusé de répondre en face à face en disant « mais nous n'avons rien à dire ». Elle m'a mis ce SMS. « L'amour, c'est simple », me dit-elle, et cela a été confirmé par lui. « C'est quand l'autre devient plus important que soi-même pour devenir soi-même, et cela en réciprocité ». Je pense à eux, ils étaient lumineux. Je pense aussi à un ami médecin, ethnologue, qui sait que sa vie est de durée courte désormais. Il aidait au Tibet une petite fille pour sa scolarité, mais après l'école élémentaire, ne l'attendait qu'un métier manuel de niveau CAP. Têtue, elle demande à quitter le Tibet pour prolonger ses études. Avec l'accord de ses parents, elle quitte le Tibet un peu comme la fille du Dalai Lama. Arrivée en France, l'adoption se fait en un temps record. Cette petite fille se nomme Marie. Entre cet ami et Marie, une extraordinaire relation d'amour qui en plus embellit et prolonge sa vie. Je te salue, Marie. Venue du Tibet à 12 ans pour prolonger tes études, tu veux être médecin et t'occuper des enfants dans le monde, de ceux qui, comme toi, ont vécu, ont connu quelque chose de terrible. Écoutons cette musique merveilleuse. Je vous donne rendez-vous les 19 et 22 février. Deux émissions, la première « Être universitaire aujourd'hui » et la seconde « Si la santé d'Edgar Morin le permet » avec Edgar Morin, message aux citoyens du XXIe siècle. Écoutons cette musique.